19h, Kinshasa, le magazine dialogue entre Congolais, Félix Kipelamondo est à la présentation.
Bonsoir. Après les libérations du siège du MLC, à quand le retour de l'opposition à l'Assemblée nationale? C'est le thème autour duquel dialogue entre Congolais va se pencher ce soir, près de deux semaines après la suspension des travaux de l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition. Qu'est-ce qui a été fait pour permettre un fonctionnement normal de la Chambre basse du Parlement? Quelles sont les conséquences que cette suspension des travaux a-t-elle engendré? Deux questions qui vont alimenter les débats. Les réactions des auditeurs de Radio Kapi, Clovis Kamouni a ouvert Vira dans le sud Kivu, veut savoir pourquoi les sièges et les chaînes du MLC étaient occupés. Albert pose cette question. N'y a-t-il pas d'autres moyens auxquels les députés de l'opposition peuvent recourir pour se faire entendre plutôt que de boycotter les travaux de l'Assemblée nationale? Pepe Akisangani, province orientale, pense qu'avec la libération du siège du MLC, l'opposition n'a plus de raison maintenant de rester en dehors de l'Assemblée. Mampuya Dobia Mwanda dans les Bas-Congo pense que les députés de l'opposition doivent prendre en compte la réaction du gouvernement, ce qu'il a manifesté de la bonne volonté en libérant les sièges du MLC. Christian Kaguta Goma au Nord Kivu croit que c'est une bonne chose pour la RDC d'avoir une opposition forte, mais celle-ci devrait être un peu flexible pour faire avancer notre pays. Enfin, John de Bounia, province orientale, le gouvernement doit cesser d'intimider l'opposition institutionnelle qui du reste n'est pas armée. Pour répondre à toutes ces préoccupations, trois invités ce soir, honorable Jean-Lucien Boussa, deuxième vice-président du groupe parlementaire du MLC, il est au studio. Honorable Aubert Minakou, député national PPRD et membre du conseil national, il est également au studio. Et enfin, maître Thomas Luango, analyste politique et professeur à l'université de Bukavu, il est au téléphone depuis cette ville. Nous souhaitons la bienvenue à nos invités.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Actualité oblige, Madame Asha Rose Migiro, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, est en visite de travail en République démocratique du Congo depuis hier dimanche. Elle arrive au moment où les députés de l'opposition ont suspendu leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Ce lundi, l'émissaire onusienne a notamment rencontré le président de la République, les premiers ministres ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Elle estime que pour la bonne marche du processus démocratique en RDC, il est plus que nécessaire que pouvoir et opposition travaillent de concert. Madame Asha Rose Migiro est au micro de René Capitan.
Well, I think even from the constitution.
Je pense que même dans la constitution de la RDC, l'opposition est reconnue. D'ailleurs, ce n'est pas tellement ma position qui compte. Les Nations Unies, autant que les secrétaires généraux, souhaiteraient voir le processus démocratique en RDC marcher. Et pour que ce processus marche, il est nécessaire que le gouvernement et l'opposition travaillent ensemble. Les secrétaires généraux et moi-même croyons que l'opposition peut jouer un rôle important dans toute démocratie. C'est pourquoi nous croyons que les efforts seront fournis pour assurer que l'opposition et le gouvernement travaillent ensemble parce que le peuple congolais s'est exprimé et je crois que le gouvernement est disposé à écouter le peuple congolais et à rester dans les contextes de la constitution qui admet le rôle de l'opposition.
Constitution, which rightly provides for the opposition.
Madame Asha Rose Migiro, la vice-secrétaire générale des Nations Unies, réaction de nos invités, honorable Aubert Minakou, député national PPRD, membre du Conseil national.
Je crois que ma réaction est tout à fait positive parce que l'on ne peut parler démocratie sans opposition. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est la capacité dont dispose tout peuple à s'autodéterminer sur le plan politique, économique, social et culturel. Ce principe de base a plusieurs corollaires, notamment la loi de la majorité, notamment le respect de l'opposition comme contrepoids face à la majorité. Et on ne peut que soutenir ces points de vue de Madame la Secrétaire Générale.
Ok, merci. Honorable Jean-Lucien Boussa, vous êtes le deuxième vice-président du groupe parlementaire du MLC.
Oui, merci beaucoup. Je crois que la position de Madame la Secrétaire Générale adjointe des Nations Unies est très juste. Très juste, je dirais même très compatible avec le régime démocratique que notre peuple a choisi au travers du référendum constitutionnel. Car comme vous le savez, l'opposition est une pièce maîtresse en démocratie. La majorité gouverne, mais l'opposition est là, comme lampe témoin, comme tire la sonnette d'alarme pour permettre à la majorité de ne pas verser dans des excès qui risquent de dériver à d'autres choses que celles que le peuple voudrait. Je voudrais aussi insister sur le fait que la légitimité en démocratie ne peut se concevoir que lorsqu'on admet, l'opposition et la majorité admettent que nous pouvons avoir des ambitions, des idées, des opinions différentes sur des questions qui peuvent nous diviser. Il y a des questions qui nous rassemblent naturellement, la République, la nécessité de la paix, le bien-être collectif. C'est des questions qui ne peuvent pas nous diviser. Par contre, la manière de réaliser le bien-être, la manière de réaliser le bien commun sont des questions qui nous divisent et par conséquent, le régime démocratique a deux pendants, la majorité et l'opposition qui, chacun connaissant son rôle dans le cadre constitutionnel, doit le jouer en toute légalité et en toute légitimité pour permettre à la République d'avancer.
Merci Thomas Luango, analyste politique et professeur à l'université de Bukavu.
Et je vous remercie et je voudrais saluer mes frères qui sont au studio et qui représentent les deux tendances actuelles. Je voudrais saluer la présence d'une personnalité haute, très haute, des Nations Unies au Congo. Je pense qu'effectivement, d'abord, les Nations Unies sont dans leur rôle parce qu'on se rend compte que tout ce qui bouge au Congo, finalement, menace la paix, non seulement au Congo, mais aussi dans le monde, effectivement. Nous sommes devenus un plateau, quand nous bougeons, tout ce qui est sur le plateau risque de se verser. Par conséquent, effectivement, je crois que le rôle est bien joué. Je pense que les deux interlocuteurs qui sont au studio ont bien défini les rôles respectifs de l'opposition et de la partie gouvernante. Je voudrais les remercier de cette conscience dont ils font montre dès à présent.
Dans son communiqué publié le lundi 9 avril dernier dans certains journaux de la place, notamment les potentiels, les MLC dénonçaient l'occupation des pillages de son siège par la garde républicaine, les pillages des résidences de son secrétaire général, les députés François Mamba et de son inspecteur général, les gouverneurs José Makila, les arrestations arbitraires et les actes d'intimidation à l'égard de ses cadres militants, ainsi que ceux d'autres partis politiques de l'opposition, et enfin, les visites et les perquisitions domiciliaire par des hommes en armes sans aucun mandat des autorités judiciaires. Près de deux semaines après la suspension des travaux de l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition, qu'est-ce qui a été fait pour permettre un fonctionnement normal de la Chambre basse du Parlement? On va se rendre précisément à l'Assemblée nationale pour avoir des éléments de réponse à cette question avec l'honorable Grégoire Katendo-Wandaya. Il est rapporteur de la Chambre basse du Parlement. Il estime que des avancées significatives ont été enregistrées jusqu'ici. On l'écoute au téléphone de Guy Roger Niampala.
Moi, je pense que nous avons un point commun avec les députés de l'opposition. Ce sont des élus du peuple. Et leurs places respectives sont dans la salle du Parlement. Donc là, le promontoire sur lequel nous siégeons pour nous concerter et dire que les efforts qui sont faits, ce sont des efforts tout simplement de dialogue. Nous dialoguons et nous dialoguons sans cesse avec les membres de l'opposition qui avaient donné un signal fort au gouvernement en quittant la salle l'autre jour. L'opposition ne reproche rien à notre institution. L'opposition a eu des griefs à formuler à l'endroit du gouvernement et le bureau de l'Assemblée nationale ne joue qu'un seul rôle, c'est d'être le relais entre l'opposition et ce qu'elle réclame et les gouvernants, donc le gouvernement. Donc, au moment où nous parlons, nous sommes déjà très avancés. Vous avez suivi vous-même le début des solutions aux revendications qui étaient formulées par l'opposition, notamment la remise du siège du MRC qui était gardé par la police pendant et après les événements du 22 au 23. Et nous avançons. Le problème important qui reste, c'est la sécurité. Et c'est un problème global. Pour autant, qu'est-ce qui concerne un certain nombre de gens qui ne sont pas nécessairement de l'opposition, mais le devoir du bureau est de faire comprendre au gouvernement que les membres de l'opposition doivent jouir d'une protection. Demain, nous allons entrer en plénière à 14h30 pour adopter le calendrier général de la session.
Honorable, vous affirmez donc que demain, lors de la plénière, les députés de l'opposition pourront participer à ces travaux ?
Mais ils l'ont compris. La majorité, elle aussi, l'a compris. Donc, c'est en étant ensemble, la majorité et l'opposition, que le Parlement, que nous voulons tous ce sanctuaire de la démocratie, pour fonctionner. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne pourront pas prendre part à cette plénière. C'est là qu'il y a de place. Si ce qui est fait jusque-là est moindre, ils vont utiliser le micro pour réclamer davantage ceux-là qui doivent réclamer.
Voilà, parmi les signes attendus, il y a la remise du siège du mouvement des libérations du Congo entre les mains des responsables du MLC, le rapporteur de l'Assemblée nationale vient de le dire. Une question directe à l'honorable Jean-Lucien Boussa, deuxième vice-président du groupe parlementaire du MLC. Demain, il y a plénière à l'Assemblée nationale. Est-ce que les députés de l'opposition seront présents, comme l'entrevoit le rapporteur de la Chambre basse et du Parlement que l'on vient de suivre?
Non, je crois qu'il faut affirmer ici l'honnêteté de... Il faut affirmer que le rapporteur était un homme honnête. Il a traduit sur un certain nombre de questions. Effectivement, la manière dont la question est en train d'être débattue sur le plan politique pour que petit à petit on retrouve la normalité de la vie démocratique en République démocratique du Congo. Cependant, je dois avouer que dans le revendication de l'opposition, il n'y a pas eu que l'affaire du siège de notre parti. Il y a eu, on a évoqué les questions sécuritaires, ça c'est clair, c'est connu de tout le monde. Nous avons aussi évoqué les questions relatives aux arrestations arbitraires, notamment la plupart de nos sympathisants, militants et autres cadres qui sont emprisonnés à Makala. Je crois que ça se trouve dans le mémorandum que nous avons daigné adresser au président de la République en tant que garant de la Constitution. Il y a aussi cette histoire de la RTNC qui doit redevenir la radio et la télévision de tout le monde. Nous avons aussi posé le problème de l'instrumentalisation de la justice à des fins partisanes. Nous avons aussi estimé que la gestion des événements du 22-23 devait être faite de manière à privilégier le dialogue permanent qui est une vertu majeure en démocratie pour qu'on ne puisse pas justement utiliser la puissance publique pour pouvoir régler un ensemble de comptes à des adversaires politiques. Donc c'est vrai que le signal qui a été donné en libérant le siège du MLC, c'est un signal fort, il faut l'admettre, mais c'est aussi vrai que nous voulons avoir les assurances des institutions de la République qui ne sont pas comme le Parlement et qui gèrent, je veux dire. Le Parlement a un rôle bien déterminé que nous connaissons tous, légiférer, contrôler le gouvernement, etc. Mais les questions sécuritaires, les questions judiciaires, les questions des droits de l'homme, c'est des questions qui ne relèvent pas de l'Assemblée nationale en tant que gestionnaire. C'est des questions qui relèvent du gouvernement, du président de la République. Et à ce titre, nous voudrions voir les signaux émis par les présidents, les gouvernements, se poursuivre davantage pour qu'une fois pour toutes, que nous levions des très bons pieds.
On reste avec vous, honorable Jean-Lucien Boussa, avec un auditeur qui vous adresse une question. Donc, on va prendre cette question de l'auditeur.
Je m'appelle M. Ignace Outillo, je suis étudiant à l'Université Notre-Dame du Kassai. Alors j'habite ici à Kananga. Oui, ma question est celle-ci. L'opposition va-t-elle attendre que le pouvoir réalise toutes les conditions qu'elle pose avant de réintégrer l'Assemblée nationale?
Voilà, la question vous est posée.
Non, la question est pertinente. Je pense que la démocratie, en République démocratique du Congo, c'est comme un enfant qui vient de naître. Notre jeune démocratie a besoin que les premiers pas soient très bien posés. Et donc, si nous avons porté très haut nos revendications, c'est pour que le régime démocratique que nous avions l'impression qu'il était en train de dérailler puisse se remettre sur les rails. Et donc, si les conditions essentielles qui fondent la démocratie, le jeu démocratique, sont réalisées, il est bien entendu que nous avons été élus pour siéger à l'Assemblée nationale et discuter avec les autres députés sur des questions d'intérêt national. Je dis par exemple, si il s'est fait, heureusement, qu'on libère les prisonniers d'opinion, qui sont à Macal et qui sont très nombreux. Si on nous aide à pouvoir éviter d'instrumentaliser la justice à des fins politiques, qu'on nous garantisse aussi que Jean-Pierre Bemba, président de l'Union pour la Nation, qui est sorti en homme libre, rentre en homme libre dans les 60 jours, il est bien entendu que ces signes sont tellement clairs que nous ne pouvons que rentrer, discuter avec les autres collègues sur les questions qui relèvent de l'Assemblée nationale au sein de l'Assemblée nationale.
Ok. Honorable Jean-Lucien Boussa, en suivant l'honorable Romain Nimi ce matin sur les antennes de Radio France Internationale, ce dernier a ajouté parmi les revendications de l'opposition, et vous venez même de le dire, les retours de Jean-Pierre Bemba dans la presse de ce matin, il me semble avoir lu dans un ou deux journaux qui parlaient d'une autre condition en tout cas posée par l'opposition qui est celle de la libération des détenus politiques. Vous-même aussi, vous venez encore d'en ajouter une, la RTNC, qui doit être au milieu du village. La liste de vos revendications remises au chef de l'État a-t-elle été revue et corrigée ou vous êtes en train de monter des enchères?
Non, pas du tout. En tout cas, ce que nous sommes en train de vous dire, et évidemment, c'est que nous avons adressé au chef de l'État. On ne va pas les mettre à la place publique in extenso.
Mais l'opinion a quand même besoin de savoir, finalement, qu'est-ce que vous demandez?
On donne à l'opinion la substance de notre mémorandum. Et je crois que c'est ça qui est dit. Ces revendications que nous venons d'exprimer aussi bien par la voix des maîtres ennemis que par la mienne propre, c'est des revendications qui sont contenues dans le mémorandum que nous avons adressé au président de la République et déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Seulement, le Jean-Pierre s'est posé la question, mais on est sorti sur base de deux éléments, on en revient avec 4-5,
c'est
la goutte d'eau.
Si on se souvient de ce qui a été dit le 9 avril dernier dans votre communiqué, il y avait des conditions qui...
Non, je voudrais préciser, justement, que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. On a observé, on a accumulé beaucoup de faits, et voilà, le moment était arrivé pour que, saisissant de cette énième violation, que nous puissions ressasser l'ensemble des violations, l'ensemble des préoccupations qui étaient les nôtres, pour qu'enfin la démocratie, le régime démocratique qui battait de l'aile, puisse retrouver sa normalité.
Ok, en bref, demain, vous n'êtes pas là à l'Assemblée nationale.
La discussion va être faite avec l'ensemble des groupes parlementaires membres de l'opposition, pour lever l'option définitive, mais il est bien entendu qu'hier, on a déposé les mémorandums auprès du chef de l'État. Peut-être que entre hier et demain 12h, beaucoup de choses peuvent évoluer. Qui sait?
Donc vous attendez un signal fort.
Attendons un signal fort.
Ok. Honorable Robert Minaku, je vous ai vu en train de prendre note. Sûrement vous avez quelque chose à dire. Vous avez à réagir par rapport à toutes les questions auxquelles honorable Jean-Michel Boussa a répondu.
Bien évidemment. J'aimerais d'abord constater, après avoir suivi le point de vue du rapporteur de l'Assemblée nationale, après avoir conféré avec plusieurs amis de l'opposition comme de la majorité, je constate d'abord qu'il y a une évolution très positive, c'est que demain, nous allons à coup sûr nous retrouver en plénière. Parce que comme vous le savez, sur le plan juridique, il n'y avait pas du tout de blocage. Au regard du quorum, l'Assemblée nationale pouvait bien siéger dès le premier jour jusqu'à ce jour. Mais grâce à la sagesse du président de l'Assemblée nationale, des autorités de l'Assemblée nationale, de tous les députés, nous avons tenu à dialoguer avec nos amis de l'UN. Et je crois que c'est une bonne chose qui a évolué de façon positive. Nous avons donc compris que nul n'a le monopole de la culture démocratique. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité, il est des politiciens, il est des opérateurs politiques qui ont intériorisé ce que c'est la démocratie et qui agissent comme tel. Il y en a aussi qui agissent contrairement aux règles de la démocratie. Et on ne peut pas dire que la culture démocratique loge dans le chef de l'opposition et que du côté de la majorité, c'est tout autre chose. Nous avons compris cela. Un autre élément positif, c'est que quand nous voyons l'argumentaire, l'évolution de l'argumentaire de l'opposition, je crois que tout le monde, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition,
tout le monde a finalement compris le principe sacro-saint de Montesquieu, la séparation du pouvoir. Parce que mon ami Jean-Lucien venait de dire qu'il y a des actes qui ont été posés par d'autres pouvoirs et il appartient à nous d'attirer l'attention de ces pouvoirs pour évoluer. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'au départ, l'Assemblée nationale devait gérer les contradictions en son sein, au lieu d'aller en dehors de l'Assemblée. Ça signifie que l'Assemblée générale devait gérer les difficultés ensemble pour attirer l'attention d'autres institutions de la République, essentiellement le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. J'aimerais aussi ajouter quelques éléments par rapport à ce que j'entends. Vous savez, les mots ne sont que des symboles, mais l'usage de certains vocables est parfois dangereux. Quand on parle de l'occupation, je reprends, occupation du siège du MLC, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y avait toute une guerre, quasiment une guerre d'agression, et que certaines forces sont venues prendre le siège.
Il y avait une force, des forces étrangères en tout cas au lieu. Il y avait d'abord la garde républicaine, après les éléments de la police. Donc,
mais on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il faut retracer?
Merci,
oui. Il faut retracer la situation dans son contexte. Le 21 et le 22, nous savons ce qu'il y a eu dans notre pays, à la suite d'une instruction du chef d'état-major général. Il y a eu troubles graves de l'ordre public. Après troubles graves de l'ordre public, je ne voudrais pas remuer la cicatrice. Après ces troubles, que fait une justice? Que fait la police judiciaire? Mène des enquêtes. Et je crois que dans ce studio, un responsable important du gouvernement a dit que le siège du MLC était protégé par la police après les incidents que nous avons tous condamnés. Protéger un siège d'un parti politique par la police, ce n'est pas une occupation, s'il vous plaît. Concernant les arrestations arbitraires...
Maître, s'il vous plaît, on peut rester là-dessus. Vous parlez de protection du lieu du siège du MLC.
Oui.
Donc on devait protéger et le lieu et tout ce qui était dedans.
Bien évidemment.
Mais après la remise du lieu, je ne sais pas si honorable Jean...
Je peux répondre à la question. Je peux répondre à la question, s'il vous plaît.
Je ne l'ai pas encore posé.
Vous l'avez déjà posé précédemment.
Non,
mais je voudrais bien jouer aussi de mes minutes.
Je vais vous retourner la parole.
Merci.
Je voulais savoir la protection du lieu, du siège du MLC. Ça sous-entend également la protection de tout ce qui était dedans.
Bien entendu.
Or, après avoir émis les lieux, en tout cas, selon ce qu'on a vu à la télévision aussi, ce qu'on a lu dans la presse, il paraît que ce siège n'a plus rien dedans.
Vous voulez que je réponde?
Allez-y.
Vous êtes journaliste. Faites un flashback, le 21 et le 22. Qui a pillé tous les secteurs environnant le siège du MLC? Je ne voudrais pas remuer la cicatrice pour rien. Qui a pillé ces secteurs? Qui occupait ce secteur jusqu'au moment où la police est arrivée? Donc, vous êtes journaliste, ce sont des allégations. On ne peut pas aujourd'hui dire que les forces de la police qui ont protégé les lieux l'ont pillé. Nous avons vu les Cheguets piller bien avant que la police n'arrive. Et je ne voudrais pas revenir parce que j'ai une logique positive vers la plénière de demain, mais ce ne sont que des allégations à vérifier parce que quand on retrace la relation de fait, on saura qui a commencé à piller ce secteur-là. Pas seulement le siège du MLC, mais tout l'alentour de ce siège.
Vous êtes au-delà de vos minutes, honorable.
Merci.
Allez-y rapidement. Vous avez fini?
Voilà, je crois que je voulais bien insister sur l'occupation, les arrestations arbitraires. Je crois qu'on va revenir sur ce point parce que mon ami a longuement...
Merci, honorable maître Thomas Luango, analyste politique et professeur à l'Université de Bukavu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce stade-là?
Bien, à ce stade, je comprends que entre nos dirigeants et ici spécialement les parlementaires, il y a tout un travail d'élaboration qui est en cours, qu'on est en train de définir exactement quelle a été la situation. Je pense enregistrer que de part et d'autre, on reconnaît qu'effectivement, je crois que le jeu s'est calmé et qu'on est au stade des inventaires. Je pense que c'est très bon. J'ai même entendu M. Milakou mentionner, sauf erreur de ma part, que si tu as été fait au siège du MLC ou de l'Union pour la Nation serait comparable à ce que fait toujours la police judiciaire. Je voudrais enregistrer que donc on pourrait bien se calmer. Donc il y a un travail qui est en cours. Je regrette évidemment d'entendre tout à l'heure cette idée d'une justice instrumentalisée, si j'ai bien compris même les termes, je crois que c'était cela. J'espère qu'il n'en est pas vraiment ainsi. Et s'il en était ainsi, que ceci sera corrigé parce que, comme disait qui encore Voltaire, la justice est quand même l'organe étatique le plus important et il serait dommage qu'il soit, je dirais que son image soit ternie par les tractations des uns et des autres.
Okay.
Je voudrais quand même féliciter les deux parties parce que je sens une démarche vers la calmie, vers le calme, peut-être même vers la fin de ce tiraillement pour que nous puissions avancer. Beaucoup de textes nous attendent et en tout cas nous les attendons beaucoup.
Ok. Merci. Je vais remettre la parole à l'honorable Minaku parce qu'il me semble que vous n'avez pas très bien compris. Très rapidement, honorable, lorsque M. Luango parle de la justice, la perquisition, quelque chose comme ça.
La police judiciaire.
Voilà, police judiciaire, rapidement.
Bon, je crois qu'il a quand même compris, mais s'il faut expliciter en une minute, je dirais que, après trouble de l'ordre public dans tout pays, il est normal que la police judiciaire agisse, mène des investigations. Et lorsque la police judiciaire mène des investigations, il peut y avoir des arrestations, évidemment, moyennant un mandat d'amener. Il peut y avoir des perquisitions, moyennant un mandat de perquisition signé par un magistrat en bonne et due forme. Et donc, lorsqu'il y a perquisition, lorsqu'il y a des arrestations, il ne faut pas automatiquement faire de l'amalgame, dire que tout cela c'est des arrestations arbitraires. Il faut arriver à présenter chaque cas pour qu'on comprenne que là, il y a des policiers qui sont entrés dans un domicile à minuit pour perquisitionner. On ne peut pas perquisitionner à minuit. Et donc, c'est contraire à la loi.
Okay.
Mais je crois que de temps en temps, il y a amalgame. Cela préjudicie sérieusement le système judiciaire congolais. Et ce n'est pas bon.
L'honorable Jean-Lucien Boussa voudrait réagir, mais je reste avec l'honorable Obem Minaku parce qu'il y a un auditeur qui a bien voulu vous poser une question à vous également.
Je m'appelle Jean-Dédé Mouana, je vous appelle à partir des Goma dans la province du Nord Kivu. Ma question est la suivante. Pourquoi la majorité au pouvoir avait attendu à ce que les députés de l'opposition suspendent leur participation au plénière pour libérer leur siège?
Merci, j'ai bien saisi la question. Et si vous suivez bien l'évolution des travaux à l'Assemblée nationale, le président de cette assemblée, M. Vital Kamerhe, a organisé plusieurs réunions entre les représentants de l'opposition et ceux de la majorité. Et au cours de ces réunions, nous avons notamment constaté qu'il y avait une petite erreur au départ. On aurait dû régler cette affaire au sein de l'Assemblée nationale. Parce que le jour où l'opposition politique avait fait sa déclaration pour sortir de la salle, quelques heures avant, il était organisé une conférence des présidents à l'Assemblée nationale. Et c'est la conférence des présidents qui prépare toutes les plénières. Et pendant cette réunion, la question n'était pas soulevée par l'opposition. Mais je crois que nous avons déjà dépassé cette étape-là, parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés, nous avons discuté, un mémo a été déposé entre les mains du président de l'Assemblée nationale, voyons plus l'avenir. Et pourquoi la majorité a attendu? La majorité n'avait pas attendu. La majorité n'était pas saisie et il y a certains aspects du problème qui devaient être réglés plutôt par le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Ok. On aura besoin d'ici un bout ça. Vous tenez vraiment à parler.
Plutôt une minute pour répondre à des choses. Par rapport au pillage du siège du MLC, des bureaux des CCTV, des CKTV Ralik, il faut avouer tout de même que sur cette question, on ne va pas discuter là-dessus. Hein. Je crois que les Chinois savent. Qui ont accédé à ces bâtiments le premier et qui ont fait quoi avant que la police n'arrive.
Okay.
C'était la garde présidentielle, naturellement.
Concernant les arrestations arbitraires, moi j'ai des exemples plutôt concrets. On vient chercher Monsieur X, cadre du parti. Je ne cite pas les noms pour éviter de remuer le couteau dans la plaie. Cadre du parti, MLC. Pour quelles raisons, on le sait. On ne le trouve pas. On prend quatre de ses frères, on les amène à la prison centrale des Makala. Dites-moi, l'infraction n'est pas comme une collective. Même la présomption d'innocence, je crois que mon collègue ici est juriste. Il sait très bien.
Il me semble qu'il est d'accord avec vous parce que je le vois.
Je peux donner des exemples. Et je crois que notre rôle à nous deux, en tant qu'acteurs politiques, aussi bien de la majorité de l'opposition, c'est de faire en sorte qu'en démocratie, et surtout dans un état des droits démocratiques, que ce genre de choses ne se répétaient pas. Et je crois que nous avons des preuves là-dessus pour parler des arrestations arbitraires. À propos de l'Assemblée nationale, son implication et ce que le Pousseau devait faire au sein de l'Assemblée nationale, il est clair qu'il y avait une matière qui concernait l'Assemblée nationale. Je voudrais apaiser mon frère ici pour lui dire que lorsque la conférence des présidents de ce jour s'est terminée, nous n'avons pas été saisis du fait que l'honorable Omer Iguaké avait été pillé. C'est après seulement que nous sommes informés que l'honorable a été visité la nuit et qu'il a fait l'objet des menaces. Et donc, nous avons pris une décision manu militaire et puis je me dis, à partir de ce moment, il se pose un problème sérieux, de manière répétée, nos quatre sont en train d'être traqués. Donc voilà quelques précisions que je voulais donner, mais je termine en disant, en vertu du principe de la spécialité des institutions, il est clair qu'il y a des questions qui pouvaient être réglées à l'Assemblée nationale, mais il est aussi clair que l'Assemblée nationale était impuissante face aux questions qui étaient posées par rapport à d'autres institutions, même par rapport à d'autres services spécialisés de l'État, notamment l'armée, les services de sécurité et la police nationale.
Ok. Quelles sont les conséquences que la suspension des travaux de l'Assemblée nationale par l'opposition a-t-elle engendré? La suspension de la participation de l'opposition aux travaux de l'Assemblée nationale peut avoir plusieurs conséquences sur la bonne marche des affaires de l'État. En effet, plusieurs lois attendent d'être votées de façon urgente à l'Assemblée nationale. Quelles sont ces lois? Claude Tianza, Lukango, nous parle de quelques-unes parmi les plus importantes.
Commençons par le budget 2007 qui n'est toujours pas adopté alors que la session ordinaire actuelle de l'Assemblée nationale est essentiellement budgétaire. Par sa présence, l'opposition pourrait faire des critiques constructives devant prendre en compte les besoins des électeurs qui ont élu ses députés. Par ailleurs, une certaine lenteur dans l'adoption du budget freinerait aussi le début d'exécution des 5 chantiers du chef de l'État, cheval de bataille du gouvernement Gisenga. Autre loi importante à examiner, c'est la loi sur la décentralisation. En effet, cette loi pourra aider à mettre un terme au conflit de compétences auquel on assiste ces derniers temps entre certains gouverneurs et leurs députés provinciaux, voire même entre les gouvernements provinciaux et le pouvoir central, notamment au sujet de l'adoption des budgets provinciaux. L'adoption de cette loi permettra aussi aux provinces de retirer à la source 40% de leurs recettes pour un développement à la base et non à partir de la capitale, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, malgré les efforts de certains gouverneurs à faire augmenter les recettes de leur province. Par ailleurs, la constitution congolaise ayant consacré le pluralisme politique, il est urgent que l'Assemblée nationale adopte la loi sur le statut de l'opposition, ce qui fixera les règles du jeu entre majorité et opposition.
Mais Totoma Luango, la suspension de la participation de l'opposition aux travaux de l'Assemblée nationale n'est pas sans conséquence. Vous avez précédemment même évoqué ces lois qui sont très attendues.
Oui, effectivement, ces lois sont très attendues. Mais je ne sais pas ce que je peux ajouter aux commentaires qui viennent d'être faits ou à la présentation qui vient d'être faite par Radio Kati même. Je voudrais simplement rappeler que je n'appellerai pas cela des événements de moi et trop fort. Des choses qui se sont passées dernièrement, ces protestations des assemblées, parce qu'il n'y a pas qu'une, des assemblées provinciales, un peu de tiraillement entre les assemblées et les gouvernements provinciaux. On a vu même finalement le ministre de l'Intérieur passer dans des provinces pour, je pense, expliquer des choses. Je pense qu'effectivement, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, le retard qu'on met à adopter un certain nombre de lois va nuire certainement au pays, à son image. Je pense qu'il faut que nos frères qui sont au Parlement s'attellent à ces travaux. Je crois que des textes sont déposés. N'oublions pas le texte sur la magistrature. C'est quand même important que la justice soit réglementée finalement. Okay. Donc, je suis tout à fait d'accord que c'est essentiel.
Ok. Honorable Aubin Minakou, vous êtes tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Claude Kianza et l'intervention de Maître Thomas Luango. Voilà.
Tout à fait d'accord. Ce sont des lois importantes. J'ajouterai, je crois qu'il en a parlé, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, parce que tous nous parlons état de droit, état démocratique, mais l'un des piliers importants d'un état de droit, c'est le pouvoir judiciaire. Et la loi sur portant création du Conseil supérieur de la magistrature peut être comparée au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc je crois que c'est un document important qui va permettre au pouvoir judiciaire de mettre en branle tous les mécanismes notamment, qui portent notamment sur l'éclatement de la Cour suprême de justice. Mais il y a aussi d'autres lois importantes à mon sens, et je crois que Jean-Lucien est mieux placé pour ça, notamment la loi ou les lois sur la réforme des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Pour reconstruire, il faut que le portefeuille de l'État soit aménagé en tenant compte de l'évolution du pays et de l'évolution internationale. Et donc, nous devons adopter une loi qui date encore, qui date de 1978. Au-delà de cela, je crois que des formations scientifiques obligent, mon domaine c'est le droit international, je crois qu'il est important d'adopter aussi la loi d'application du statut de la Cour pénale internationale pour lutter contre l'impunité internationale, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Donc la tâche est grande au niveau du Parlement. Nous avons perdu 10 jours, c'est vrai. Nous pouvions travailler pendant ces 10 jours s'il fallait s'en tenir au quorum, mais avec sagesse, nous avons privilégié la cohésion parce que sans l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, dans ce contexte singulier de la République démocratique du Congo, un contexte encore post-conflit, ça pouvait ne pas marcher.
Ok. Honorable Jean-Lucien Boussa, avec ce retard enregistré, quelle serait votre réaction si demain la majorité au pouvoir prétendait n'avoir pas fait telle ou telle chose par manque de temps?
Non, je crois que au niveau de l'Assemblée nationale, on est quand même solidaire par rapport au travail de l'Assemblée nationale, même si la démocratie voudrait que là où nous ne sommes pas d'accord, nous sommes obligés d'obéir. C'est ce qu'on appelle la désobéissance négative. La majorité a décidé, l'opposition ne peut que suivre. Bien sûr que l'opposition élève le temps et fait sa critique. Ce que je voulais dire, c'est que on a besoin de l'opposition. Et nous sommes battus pour les fondamentaux de l'opposition, les fondamentaux de la démocratie sans lesquels toutes les lois que nous sommes en train d'énumérer ne peuvent pas être votées dans un contexte de pluralisme d'opinion. Et donc nous risquons de verser dans un système de pensée unique où les lois sont faites, au niveau de, où les projets de loi sont envoyés par les gouvernements et adoptés comme tels. Cependant, il est vrai que les 10 jours que nous avons passer en dehors de l'Assemblée nationale ne peut pas être sans conséquence.
Ce n'est même pas 10 jours, parce que si demain les travaux commencent et vous n'êtes pas là, ça va
donc je veux dire que les conséquences sont évidentes, on ne peut pas en discuter. Seulement, par rapport au besoin d'un état des droits démocratiques, il est nécessaire qu'on puisse régler les fondations pour que la maison soit bien construite et reste solide même pour l'avenir. Parce que ce que nous réclamons aujourd'hui, nous ne le réclamons pas pour nous-mêmes. Mon frère, il est juriste et il sait que l'opposition est la majorité ne sont que des positions qui peuvent s'alterner avec le jeu des élections. Et donc, ce que nous réclamons aujourd'hui, nous le réclamons aussi pour la majorité actuelle qui va devenir opposition demain. Donc, par rapport aux lois, le plus important, il est un fait que par rapport à ces lois, un État aurait dû être causé, mais vous devez observer avec nous que le projet de loi sur la décentralisation n'est pas encore envoyé à l'Assemblée nationale. Le projet de loi budgétaire n'est pas encore envoyé à l'Assemblée nationale. Certes, une proposition de loi sur le statut de l'opposition se trouve à l'Assemblée nationale et a été même portée à l'ordre du jour de notre session. Et donc, il est un fait que le gouvernement doit accélérer pour que, au moment où les travaux vont reprendre, que nous puissions nous appeler aussi de la manière la plus sérieuse, de la manière la plus républicaine possible.
Ok, opinion des auditeurs. Bonsoir, Pamela Mnazo.
Bonsoir, Pélé Kipela.
Que disent les auditeurs?
Kishia Kato de Bounia, dans la province orientale, veut savoir quand est-ce que le gouvernement prévoit de réaliser le cahier de charge de l'opposition. Christian Makoba de Kinshasa pense que l'opposition devrait reprendre sa place au sein du Parlement afin d'éviter le blocage du processus démocratique. Balo de Kikwit, dans la province du Bandundu, pose cette question. Peut-on parler de la démocratie au Congo avec tout ce qui se passe entre l'ANP et l'opposition? Et Katembo Kivono, au Nord Kivu croit qu'il n'y a pas de vraie démocratie sans opposition, mais que celle-ci n'abuse pas de cette faveur au risque de prolonger le pays dans un désordre. Safari Ngaz de Bounia, dans la province orientale, pose la question suivante. Pourquoi l'opposition est traitée comme un parti non reconnu par notre pays? Et nous terminons par le docteur Lola qui demande à l'AMP de ne pas avoir une attitude répulsive vis-à-vis de l'opposition politique, mais plutôt d'établir avec elle un cadre permanent de concertation.
Merci Pamela, je vais récupérer des papiers, ça me permet de pouvoir suivre les réponses hein, que les invités vont donner aux auditeurs.
Exactement.
Voilà. Alors, qui répond du premier? Je vois l'honorable Minakoué fin prêt.
Je crois.
Vous avez fait une réaction de l'auditeur, ou Dieu vous répondez.
Oui, peut-on parler d'une démocratie dans notre pays suite à ce que nous avons vécu, ce que nous vivons entre la majorité et l'opposition? La démocratie, même en Grande-Bretagne, qui est la mère de la démocratie, même en France, en Belgique, aux États-Unis, chaque jour qui passe, la démocratie s'affine. Nous sommes sortis d'une guerre d'agression qui a suffisamment déchiré la République. Ce sont les premières véritables élections que nous avons connues dans notre pays. Et donc, s'il faut utiliser une image, nous sommes encore bébés en démocratie. Et c'est pourquoi moi je reste optimiste. Parce que l'un des éléments, l'une des caractéristiques de la démocratie, c'est les élections. Mais ce n'est pas une caractéristique suffisante. Au-delà des élections, il faudrait que la démocratie, que les institutions issues des élections puissent travailler en respectant les fondamentaux ou les principes piliers d'un état de droit. Un état de droit, c'est un état où ses règles, où tout se règle selon les principes prescrits par la Constitution pour asseoir une justice sociale, pour que tout citoyen puisse évoluer, vivre, vaincre sa vie quotidienne en tenant compte de ses droits.
Ok. Merci. Honorable Jean-Lucien Boussa, je ne sais pas quelle est la réaction de l'auditeur que vous avez pris, mais en tout cas, moi, j'ai Christian Makoba de Kinshasa qui pense que l'opposition devrait reprendre sa place au sein du Parlement afin d'éviter les blocages du processus démocratique.
Deux réactions. D'abord, celle-là. Non, je reprends les propos de mon collègue de tout à l'heure lorsqu'il dit que la démocratie au Congo, c'est encore un bébé. Par nos réactions, nous voulons que les bébés mal formés ne puissent devenir un éternel handicapé. Il faut déjà, au moment où il est bébé, l'amener chez les spécialistes pour qu'il soit normalisé, si vous passez l'expression. Deuxièmement, à propos de la démocratie, mais c'est l'art du compromis. C'est l'art du dialogue permanent en démocratie. Même dans toutes les démocraties du monde, il y a des questions essentielles qui exigent que les démocrates discutent et trouvent des compromis. C'est des vertus majeures en démocratie. L'opposition n'est pas une faveur, comme j'ai entendu quelqu'un dire. Ce n'est pas une faveur, c'est une position. C'est un contre-pouvoir du pouvoir dans un régime démocratique. Et c'est une pièce maîtresse de la démocratie.
C'est bien compris.
Pour cette raison que l'opposition ne doit pas être considérée comme une faveur, c'est plutôt une position et avec la majorité qui constitue ce qu'on appelle le système démocratique.
Et l'auditeur qui estime que vous devez rentrer au Parlement.
Non, mais vous pensez que nous allons sécher le Parlement pendant 5 ans? Non, c'est pas possible. Nous avons dit que le bébé est mal formé. Lorsque des malformations, ces constats s'observent, il faut l'amener chez les spécialistes pour une chirurgie efficace afin qu'il soit réhabilité complètement.
Ok. Vraiment, c'est l'honorable Minako qui demande la parole. 10 secondes, avant que je ne prenne Maître Tomalon.
Si le bébé est mal formé, il appartient au médecin de constater cet état de malformation. Et non à n'importe qui, pas un banda, par exemple. La démocratie, c'est l'art du compromis, s'il vous plaît.
Les parents peuvent constater.
Oui. La démocratie, c'est l'art du compromis. Compromis égale par compromission. Et le plus grand compromis, c'est la constitution et les élections.
Très rapidement, Maître Luango, nous n'avons que quelques secondes pour terminer.
Je vous remercie. Je pense que nous devons comprendre que la population demande à ses élus de travailler, de produire. Qu'il y ait des gestes, des actes symboliques pour renforcer l'expression de la parole, d'accord, mais quand même, on doit continuer à produire. Je crois que c'est ce que la population a voulu dire dans ses dernières interventions. Je voudrais remercier ces députés qu'ils nous donnent cette chance. Merci. D'avoir les lois que nous attendons.
Merci. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à tous nos invités. À nous revoir demain à la même heure, même fréquence. Bonsoir chez vous. Thank you.